Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement sur votre application favorite de podcast. Pour cette édition en partenariat avec Questions Internationales, regard sur la Russie, puissance solitaire. Comme le titre l'a revue, un acteur incontournable sur la scène internationale après 20 années de règne sans partage de Vladimir Poutine, voire un géant géopolitique. Moscou manie l'outil militaire avec force, s'appuyant sur une armée modernisée et refondue, et c'est en Syrie et plus généralement au Moyen-Orient s'affirmer comme la seule puissance capable de parler à tous. La stratégie du Kremlin, qui est de remettre en cause les équilibres de la fin de la guerre froide, génère des interrogations chez les Occidentaux, européens en tête, qui hésitent sur la politique à mener envers un pays qui se présente à la fois comme une menace et un interlocuteur incontournable. Nos invités, Sabine Janssen, professeure au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, co-rédactrice en chef de la revue Questions Internationales. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle Facon, maître de recherche et directrice adjointe de la Fondation pour la Recherche Stratégique, spécialiste de la politique étrangère et de sécurité russe. Bonjour.
Bonjour.
Et Tatiana Kastoueva-Jean, directrice du Centre Russie-NEI de l'Institut français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour à tous.
L'actualité autour de la Russie prend des directions tant intérieures qu'extérieures. On va commencer par les extérieures. La Syrie d'abord, l'occasion pour les forces russes de faire la publicité de certains de leurs matériels les plus récents et de redéployer une force permanente en Méditerranée. L'expérience syrienne comme fondement d'une nouvelle stratégie d'action limitée destinée à promouvoir les intérêts de la Russie en dehors de ses frontières. Une expérience qui en tout cas s'éternise, là où intervenant en Syrie depuis 2015 à la demande de Bachar el-Assad, la Russie veut en finir avec la guerre. Moscou est-elle proche de cet objectif, Isabelle Facon?
Bon, c'est extrêmement compliqué puisque il y a tout, outre ce qui est en train de se passer sur le terrain en ce moment, la Russie est confrontée finalement à une réalité qui est que le jeu des acteurs locaux, régionaux et locaux lui échappe en fait assez largement et qu'elle n'a pas de prise sur le jeu de tous les acteurs. Donc ça, c'est une première complication que l'on voit aussi au niveau du débat sur l'avenir de la constitution syrienne, etc. Après, sur le volet d'après, qui inquiète les Russes également, c'est le volet reconstruction, puisque là, pour le coup, la Russie n'a pas les moyens d'assurer cette reconstruction, tout en voulant rester présente sur le terrain. On le voit par le déploiement d'une force militaire, une nouvelle base aérienne à Arnhemim qui va rester. Comme vous l'avez dit, la présence en Méditerranée orientale qui s'est renforcée. Donc il y a une volonté de rester, mais ce n'est pas la Russie qui pourra seule assurer la reconstruction. Et donc, on voit qu'il y a eu une réouverture très limitée, certes, mais une réouverture vers les Européens pour voir s'il y a des options de ce côté-là. Mais aussi du côté des monarchies du Golfe. Je pense que dans l'effort que les Russes font dans cette région-là, il y a aussi une inquiétude, une préoccupation par rapport à ce volet financier. Donc on regarde un peu de tous les côtés pour voir quelles sont les options. Et on peut supposer que c'est un élément de discussion aussi entre Russes et Chinois pour la phase suivante. Mais effectivement, pour une Russie qui voit toujours la Syrie comme sa porte d'entrée principale au Moyen-Orient, et tous les éléments dans la stratégie russe montrent que la Russie ne va pas partir après, eh bien ces questions-là sont extrêmement importantes.
Tatiana Kastoueva-Jean.
Je pense que la Russie, on peut dire qu'elle a atteint les premiers objectifs qu'elle avait fixés, et c'était l'objectif d'éviter une révolution de couleur, le régime change, le régime Assad, et rester en place et les consolider. La lutte anti-terrorisme, ça c'était un autre objectif qui est partiellement atteint, mais les combats continuent comme on le voit. Il y avait aussi l'objectif de sécuriser les bases militaires russes et enfin sortir de l'isolation diplomatique dans laquelle la Russie s'est retrouvée à la suite de l'annexion de la Crimée et le conflit à l'est de l'Ukraine. Donc ce sont une première série d'objectifs qui a été atteinte par cette opération militaire. Mais maintenant, la guerre n'est pas finie et Isabelle a tout à fait raison de souligner que la Russie n'a pas l'emprise finalement sur le jeu des acteurs régionaux comme la Turquie. Et on est très loin de la solution politique malgré le processus d'Astana. Donc c'est l'enceinte de négociations mis en place en parallèle avec les négociations de Genève, et on est encore plus loin de la reconstruction. Il y avait la rencontre entre Vladimir Poutine et le président turc Erdogan à Moscou. On voit que la Russie est en position de force. Erdogan appelle Vladimir Poutine cher ami, et les deux pays font vraiment beaucoup d'efforts pour ne pas se fâcher et ne pas rentrer dans une confrontation directe. Néanmoins, on est vraiment loin de la solution politique.
Alors la Turquie et la Russie, qui, autre front, se retrouvent également en Libye.
Oui,
Sabine Janssen.
Oui, alors je voudrais peut-être revenir sur un point, c'est que le rapport de la CIA, Le Monde vu en 2035 par la CIA, insiste toujours beaucoup sur le statut de la Russie comme puissance révisionniste. Or, on voit bien dans le cas syrien, par exemple, que la Russie en Syrie est plutôt une puissance conservatrice. C'est-à-dire que son objectif, c'est effectivement de maintenir une forme de statu quo tout en maintenant son influence et tout. Le problème, c'est la tension entre donc garder la possibilité de jouer un rôle et en même temps ne pas s'enfoncer dans une sorte de nouveau Vietnam d'enlisement qui ferait que la Russie n'arriverait pas à se dégager d'un guépier. Alors effectivement, elle a une présence tous azimuts, Syrie, Libye, mais pas seulement Libye, parce qu'elle a noué également des accords, elle a signé des accords avec le Soudan. Elle est présente aussi en République démocratique du Congo, donc il y a une espèce d'activité tous azimuts. Et alors, il faut peut-être pas non plus trop s'illusionner sur les moyens d'action de la Russie. Là, il y a quand même, en termes, je dirais, de force de frappe économique et financière, une faiblesse pour la Russie. Mais il n'empêche qu'elle est présente. Poutine a atteint un certain nombre de ses objectifs, notamment celui de restaurer, en quelque sorte, la grandeur de la Russie, de lui redonner un rang. De ce point de vue-là, Poutine a, je dirais, une certaine filiation avec notre De Gaulle national.
Alors, on évoquait la Libye, on a parlé très rapidement de la Crimée. Quels sont à vos yeux les problèmes qui pèsent le plus lourdement sur les positions internationales de la Russie, Isabelle Facon?
Sabine l'a dit, le levier économique et financier, c'est quand même une grande limitation pour la Russie. On le voit notamment sur un des volets de sa politique étrangère qui est d'obtenir une meilleure insertion en Asie. C'est devenu quelque chose d'important. Poutine milite pour ça depuis le milieu des années 2000. C'est devenu évidemment d'autant plus important sur fond de sanctions occidentales. Et on voit que là, le fait que la Russie a une faible capacité d'attraction sur le plan du climat, de l'investissement, sur le plan même de sa propre capacité à porter des projets d'investissement dans les pays, par exemple, d'Asie du Sud-Est, eh bien, on voit que ça pèse. Et ce côté russe qui est de mettre en avant toujours les rapports de force, la carte géopolitique, pour son insertion en Asie, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les pays de la région cherchent aussi des opportunités économiques. Et là, la Russie est assez défaillante à ce niveau-là. Et ce n'est pas du tout absent, finalement, de sa tendance que vous avez évoquée dans votre introduction, qui est de mettre en avant le facteur militaire, puisque ce que constate la Russie, c'est que en grande partie, son renouveau de puissance sur la scène internationale, il est passé par le volet militaire. En Asie, finalement, ce qui reste un facteur équilibrant avec la Chine, ça reste le statut de puissance nucléaire, mais aussi, nous, on a une expérience opérationnelle de combat que vous, armée chinoise, vous n'avez pas, et donc, ils vendent ça, d'une certaine façon, aux Chinois, et ça permet aussi un affichage de rééquilibrage du rapport de force. Ce qu'il voit aussi, c'est que dans la relation avec les Occidentaux, c'est à travers le souci de déconfliction, d'éviter des escalades, etc., que, eh bien, bon an mal an, la Russie a un peu obligé les pays occidentaux à lui parler. En Afrique, évidemment, le levier militaire est également mobilisé. Donc, d'une certaine façon, le facteur militaire aide la Russie à compenser la faiblesse de ses leviers économiques. En revanche, il y a une question sur le soft power. Et il me semble que depuis quelques années, initialement, c'était pas forcément très articulé, mais maintenant, il me semble que ça l'est beaucoup plus. Il y a le déploiement d'un discours qui est susceptible de plaire assez largement, y compris dans nos sociétés. Sur le plan de la politique étrangère, c'est le thème du souverainisme, de la souveraineté des États. Et évidemment, sur le volet social et politique, ce sont les valeurs traditionnelles, l'organisation de la famille traditionnelle, l'absence du religieux dans nos sociétés, etc. Et je trouve que le discours de la Russie sur ces sujets s'articule de plus en plus, probablement parce qu'il y a une prise de conscience qu'il y a un public pour cela dans beaucoup de pays aujourd'hui et que peut-être il y a un début de soft power qui émerge autour de ces thématiques.
Qu'on retrouve, et on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, dans ce projet de réforme constitutionnelle. Tatiana Kassouvajan, commentaire sur ce que vient de dire Isabelle Facon, plus généralement donc sur les dossiers, les problèmes qui pèsent à vos yeux le plus lourdement sur les positions internationales. international de la Russie.
Je vais reformuler un petit peu les choses. Si j'avais à citer un point de la véritable force et de la véritable faiblesse de la Russie, je formulerais ça de la manière suivante. Le plus gros problème aujourd'hui, c'est l'absence de confiance en autorité russe et en action russe. Et la Russie, évidemment, y a beaucoup contribué avec tout un discours parfois très contradictoire en présentant plusieurs explications pour la même chose. Je pense par exemple pour MH17, l'avion qui a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine en 2014. La Russie avait présenté plus d'une dizaine finalement d'explications différentes qui avaient tous ce point en commun, que ça disculpabilisait la Russie. Elle évoque le précédent de Kosovo pour dire que l'action envers la Crimée a été légitime. En même temps, elle ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Elle nie la présence de ces militaires à l'est de l'Ukraine en présentant le conflit comme le conflit civil. Or, on sait que ce n'est pas le cas. Et on peut multiplier les exemples. Donc finalement, ça aboutit à la destruction de la confiance et même les initiatives qui pourraient être positives, comme le moratoire sur les missiles de portée intermédiaire en Europe, etc. Tout ça passe à perte et profit. On ne fait pas confiance à la Russie, on ne veut plus discuter. C'est le plus gros problème aujourd'hui, je pense, pour la politique intérieure russe. Et si j'avais un point fort à souligner, j'aurais dit que la Russie, aujourd'hui, offre des options stratégiques à des pays qui n'en ont pas beaucoup. Je pense à l'Afrique, la carte russe est très utilisée. La Turquie a utilisé avec l'achat des S-400 la carte russe pour négocier avec l'OTAN. Au sein de l'Union européenne, la Grèce et l'Italie ont utilisé aussi cette carte. Les pays de Balkans utilisent en disant si l'Union européenne n'est pas suffisamment ouverte à notre égard, nous, on a la carte russe à jouer.
Alors, vous parliez de l'absence de confiance vis-à-vis de la Russie. Ça me permet d'introduire cette main tendue par le président français Emmanuel Macron, qui a reçu Vladimir Poutine au fort de Brégançon, on le rappelle, l'été dernier, quelques jours avant le sommet du G7 de Biarritz. Le président français qui a jugé pertinent qu'à terme la Russie puisse rejoindre le G8, tout en soulignant l'importance de parvenir à des progrès tangibles dans la résolution du conflit ukrainien. Qu'est-ce que vous pensez, les unes et les autres, de ce rapprochement proposé par Emmanuel Macron? Ça fait grincer des dents en Europe orientale, chez les Allemands. Emmanuel Macron, vous semble-t-il, le plus légitime en Europe pour opérer ce rapprochement, Sabine Janssen?
Oui, alors je vais répondre à votre question, mais je reviens juste sur le soft power pour rappeler malgré tout que avant la Russie, l'URSS était quand même passé maître dans l'art d'utiliser le soft power, parce que elle utilisait l'idéologie à cette fin, elle l'a toujours très bien fait, et là il y a une forme de continuité indiscutablement, même s'il y a de nouveaux moyens actuellement. C'est vrai, tout récemment il y a des créations intéressantes comme un conseil de coordination des compatriotes, donc il y a aussi la volonté de, si je puis dire, un insuffler la bonne parole dans la diaspora. Mais je reviens à ce sujet effectivement de reprise de relations avec la Russie. On sait que la Russie, c'est toujours un pays qui est très clivant, et notamment en France, ça l'a toujours été, un peu comme les États-Unis du reste. Et je crois que si Emmanuel Macron souhaiter jouer désormais davantage la carte russe, c'est qu'il se rend bien compte, vu les relations que nous avons actuellement avec les États-Unis, qui certes restent un allié mais ne sont plus des amis, il faut impérativement rétablir des relations, je dirais, normales avec la Russie. Et là, je crois que Vladimir Poutine est un homme pragmatique, et je crois que Emmanuel Macron l'est aussi. Et au fond, ce rapprochement, il est l'illustration de ce pragmatisme. Et de fait, si l'Europe veut peser dans le monde futur, en tout cas celui qu'on nous prévoit, une sorte de grande rivalité entre les États-Unis et la Chine, il faut tenter d'établir une relation pacifiée avec la Russie. Mais en prenant en compte ce qu'est la Russie, cette absence parfois de confiance que on soulignait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'elle a toujours un discours un peu à double, triple fond, mais en même temps, il y a des réalités qui pèsent, il y a aussi des réalités des relations économiques. L'Union européenne, c'est quand même le grand partenaire commercial de la Russie, et de ce point de vue-là, même si actuellement avec les sanctions, c'est un petit peu compliqué, on y reviendra peut-être, mais de ce point de vue-là, il y a une carte à jouer. Et Emmanuel Macron apparaît quand même comme actuellement, en tout cas un peu en position de leader au niveau européen, même si ses marges de manœuvre sont quand même plus limitées qu'il ne le souhaiterait.
Alors Emmanuel Macron qui se rendra à Moscou pour assister aux cérémonies du 9 mai prochain. Cette volonté de changement, est-ce qu'on la trouve également chez Vladimir Poutine ?
Chez Vladimir Poutine, je ne peux que redire ce qu'a dit Sabine sur le fait qu'il est pragmatique, que sans doute, il peut être attentif à certaines propositions qui peuvent être faites dans ce cadre. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que pour l'instant, c'est beaucoup au niveau des armées, en fait, qu'il y a un effort qui est attendu pour essayer de voir comment on peut réenclencher des choses dans la relation avec la Russie. Mais plus globalement, j'ai le sentiment qu'à Moscou, même si on regarde avec intérêt, il y a aussi beaucoup de scepticisme qui s'exprime. Et c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur les possibles résultats, en tout cas sur le court moyen terme. Scepticisme d'une part parce que justement pour Emmanuel Macron un objectif principal dans cette main tendue à la Russie c'est d'essayer d'apaiser le contexte stratégique très difficile dans lequel évolue l'Union européenne par différents moyens et une meilleure relation avec la Russie est un de ces moyens. Sauf que du coup le cadre Union européenne va peser finalement dans les choix que peut faire Emmanuel Macron et dans les options qu'il peut proposer dans ce cadre. Et là, vu de Moscou, eh bien, ça veut dire que le cadre est très contraint et que les propositions ne vont pas être très convaincantes. Par ailleurs, il y a aussi une partie des élites russes au niveau des élites dirigeantes qui considèrent que finalement, il n'y a pas forcément beaucoup d'efforts à faire, que l'Union européenne, de toute façon, est en crise, que les Européens sont dans une situation extrêmement difficile et que donc il est urgent d'attendre pour être encore plus en position de force et ne pas avoir à faire trop de concessions. Donc il y a ces deux volets, effectivement. Je pense que Vladimir Poutine, à certains égards, peut même être plus pragmatique qu'une autre partie de ses élites. Ça s'est vu notamment à l'occasion du sommet qui a eu lieu l'année dernière entre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux côtés, où on a senti que finalement, c'était plutôt au niveau du Conseil de sécurité que les choses étaient un peu plus bloquées. Donc je dirais qu'à Moscou, la tendance générale, c'est intéressant, mais concrètement, sur quoi ça peut déboucher ? Là, il y a plus de scepticisme.
Alors, des intérêts aussi économiques, puisqu'on a vu le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, se rendre à Moscou en décembre dernier. Bruno Le Maire qui estime qu'il faut éviter un risque de déstabilisation de la Russie et sa soumission à la puissance chinoise, avec pour priorité parvenir à desserrer l'étau des sanctions économiques américaines qui ont été introduites dans la loi d'août 2017 et qui visent aussi l'Iran, la Russie et la Corée du Nord, pour terminer cette première partie d'émission. Tatiana Castelvoyageant.
Juste pour rajouter une phrase à ce que disait Isabelle, je pense que Vladimir Poutine, il souhaiterait normaliser les relations avec l'Union européenne et l'Occident d'une manière générale. Maintenant, il faut avoir en tête qu'il n'y aura pas de retour à la situation avant 2014. C'est surtout ça.
Annexion de la Crimée, qui est vraiment un tournant.
Tout à fait, absolument. C'est un événement qui a marqué vraiment le tournant et le début de la confrontation ouverte entre la Russie et l'Occident. Mais donc, comme je disais, la Russie ne souhaite pas le retour à la situation d'avant et elle veut être reconnue tout à fait différemment par ses partenaires. Et elle met aussi, depuis toujours en fait, l'accent sur les relations bilatérales plutôt que les relations avec l'Union européenne, où il trouve que les pays baltes et la Pologne pèsent beaucoup négativement sur la relation avec la Russie. En ce qui concerne l'intérêt économique et la visite de Bruno Le Maire, oui, en effet, la France a beaucoup d'intérêts économiques en Russie. Elle est le deuxième, je crois, ou le troisième investisseur étranger hors les zones offshore. Il y a les grandes entreprises françaises qui sont présentes. Comme dit souvent la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, la France est le premier employeur étranger en Russie. Donc, ses intérêts sont très importants. Le gros problème, ce sont les banques qui sont extrêmement frileuses pour accompagner les projets d'investissement en Russie. Il n'y a pas que les banques françaises qui sont frileuses, mais ça, c'est même antérieure à l'annexion de la Crimée. Et c'est un problème qui ne va pas être réglé facilement. Une fois de plus, c'est une question de confiance, une question du climat des affaires qui est dégradé. Et l'affaire de Philippe Delpal ne va pas contribuer, évidemment.
Ce Français emprisonné.
Ce banquier français emprisonné ne va pas contribuer à assainir cette question de confiance.
Tatiana Castelvoyageant, Isabelle Facon et Sabine Janssen, on vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Russie, puissance solitaire, comme le titre la dernière édition de la revue Questions internationales. Nous retrouvons nos invités. Sabine Janssen, professeure au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, co-rédactrice en chef de la revue Questions internationales. Isabelle Facon, maître de recherche et directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la politique étrangère et de sécurité russe. Et Tatiana Kastouevajan, directrice du centre Russie NEI de l'Institut français des relations internationales. La Russie, acteur incontournable et paradoxalement également un pays en déclin. Alors on a vu récemment le Premier ministre russe proposer un plan de modernisation pour la Russie avec un montant de 375 milliards, l'équivalent en euros, d'investissement prévu pour moderniser une Russie à l'économie anémique. Le Kremlin souhaite réduire de moitié la pauvreté d'ici 2024, atteindre une croissance annuelle d'environ 4% du PIB. Objectif évidemment très ambitieux quand la Banque mondiale table pour la Russie sur 1,6-1,8 d'augmentation en 2020-2021. Sabine Janssen, un commentaire sur ce grand programme d'investissement?
Oui, alors on rentre apparemment dans une nouvelle phase parce qu'on a eu jusque-là une politique plutôt orthodoxe. C'est vrai que Medvedev, c'est plutôt un libéral et on n'était pas dans une logique de politique de relance. Or là, on rentre dans une politique de relance. On est, si vous voulez, un peu, comme on dit en bon français, dans une période de reset pour Poutine, c'est-à-dire de réinitialisation. Il est quand même au pouvoir depuis 20 ans. Mmh. Il y a beaucoup de mécontentement dans la population, même si c'est vrai qu'elle se manifeste surtout dans les grandes villes. Il y a un accroissement des inégalités sociales. C'est quand même un pays dans lequel 1% de la population accapare plus de 60% de la richesse nationale. Donc potentiellement aussi de mécontentement. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle Poutine a tout intérêt à changer de politique économique. Et c'est ce qu'il va faire là. Alors, il avait déjà engagé, notamment en matière démographique, un certain nombre de mesures de relance pour encourager la natalité, qui reste quand même faible. Et il est vrai que ça fait partie aussi du handicap potentiel de la Russie par rapport à l'immensité de son espace, 17 millions de kilomètres carrés, 75% de la population qui se trouve à l'ouest de l'Oural, et de grands espaces vides. Et c'est vrai que les forces vives vont manquer, elles manquent déjà, parce qu'il y a aussi un très fort exode des cerveaux, une volonté, là on le voit dans les sondages des jeunes entre 18 et 24 ans, il semblerait que 53% d'entre eux ne rêvent que d'une chose, c'est de quitter la Russie. Donc il est très important que cette politique de relance soit faite et qu'elle permette de satisfaire un certain nombre de besoins. Il ne faut pas non plus oublier que toutes ces dernières années, les salaires réels ont baissé. Donc les Russes se sont appauvris. Il y avait eu un accroissement dans les années 2000, mais là, très clairement, il faut absolument relancer l'économie. Et c'est la raison pour laquelle ce plan est lancé. Alors, il est bien inférieur à ce qui avait été envisagé. Il y a une certaine déception parce qu'on a parlé de 374 milliards. On estimait qu'il en fallait encore bien plus pour relancer les infrastructures, pour justement contribuer à un certain nombre de subventions pour les familles, l'achat de logements notamment, des allocations pour les enfants en dessous de 3 ans et entre 3 et 8 ans. Enfin, il y a toute une politique sociale qui va se mettre en place et sur laquelle, je dirais, le régime va construire sa légitimité et sa capacité à perdurer aussi à partir de la réussite de ce plan, c'est très clairement.
Alors, on quitte le volet économique pour aborder deux grands pôles de relations extérieures de la Russie. Il y a d'abord le pôle avec les États-Unis. L'enthousiasme et les attentes suscitées en Russie par l'élection de Trump se sont assez vite évanouies. Est-ce que la relation est dans l'impasse? En tout cas, il y a des divergences de fond entre les deux pays sur presque tous les sujets, ou en tout cas beaucoup. Il y a les sanctions contre la Russie, le Venezuela où la Russie soutient le président Maduro. On voit Moscou souhaiter un dialogue d'égal à égal avec Washington. Où est-ce qu'on en est? Isabelle Facon.
Bon, on n'a pas beaucoup avancé, effectivement, sous l'administration Trump, tout simplement parce que, compte tenu des conditions dans lesquelles s'était passée la campagne et compte tenu de la façon dont les Russes ont voulu intervenir et sont intervenus dans cette campagne, à chaque fois que Donald Trump a voulu faire un pas vers la Russie, il s'est pris une volée de bois vert vis-à-vis de son public, et notamment le Congrès, qui régulièrement a pris de nouvelles sanctions contre la Russie. Et je pense que Donald Trump, pour le coup, avait une idée en tête en essayant de se rapprocher de la Russie, indépendamment du fait que visiblement il apprécie la personnalité de Vladimir Poutine, c'était l'idée que on peut pas avoir deux grands adversaires stratégiques simultanément. Donc lui, il trouve que le principal adversaire stratégique, ça devrait plutôt être la Chine. Néanmoins, ça ne s'est pas passé ainsi, et donc je pense que pour la Russie, finalement, on a fini par en prendre son parti, même s'il y a certainement des regrets. Et je pense qu'il y a un élément de la discussion en Russie qui montre qu'en fait, finalement, Donald Trump, en ce moment le bazar dans les relations avec les alliés, que ce soit les alliés européens ou les alliés asiatiques des États-Unis, en brouillant l'image des États-Unis sur la scène internationale, et ben finalement, il a un peu joué le jeu de la Russie. Mmh. Il est allé dans le sens de cette idée d'un déclin du leadership occidental dans les affaires mondiales, en brouillant l'image de la principale puissance mondiale qui a toujours fait figure, en tout cas depuis la fin de la guerre froide, de moteur, finalement, dans les relations internationales. Et en tout cas, d'une certaine façon, et très indirectement, Donald Trump a fait le jeu de Moscou. Alors le principal dossier pour les Russes dans la relation avec les États-Unis dans les mois à venir, ça va être la question de l'avenir du désarmement, des mesures de maîtrise des armements. Même s'ils sont ambigus hein, sur cette question-là, on l'a vu avec le traité sur les forces conventionnelles en Europe, on le voit avec le document de Vienne, on le voit avec le traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Sur les armements stratégiques, je pense que la Russie est plutôt volontaire sur ce volet-là, et c'est plutôt du côté américain qu'on attend des initiatives.
Alors justement, sur ce traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire que Gorbatchev avait signé avec Reagan en 1987, il est caduc depuis août 2019. Le traité New Start ne sera probablement pas prolongé une fois arrivé à échéance en 2021. Est-ce que la situation vous paraît plus dangereuse que pendant la guerre froide, Tatiana Kassovajan?
Évidemment, c'est un cadre que les diplomates ont mis des années à discuter, qui vole en éclat et la situation paraît moins stable. C'est extrêmement difficile à dire comment on peut gérer ce genre de choses. Les Russes semblent quand même être intéressés à la prolongation du traité New Start pendant une certaine période, mais en effet, il y a un cadre de discussion qui nous manque, et c'est aussi un canal de négociation permanent entre tenue avec les États-Unis. Donc je pense que oui, dans une certaine mesure, la situation est plus instable, et même si la grosse partie de l'arsenal nucléaire mondial, plus de 90% sont partagés entre les deux puissances américaines et russes, il y a quand même aussi la question de la Chine qui se pose pour participer à ces négociations.
Alors la Chine, finalement ce qu'on constate, c'est que le partenariat entre la Russie et la Chine s'est développé dans beaucoup de domaines. Est-ce qu'on peut parler de succès de la politique extérieure de la Russie, ce partenariat russo-chinois, Sabine Janssen?
Oui, je crois qu'il y a un point qu'il faut souligner, c'est que le monde dans lequel on est, post-guerre froide, est beaucoup plus complexe et d'une certaine manière moins rassurant et sécurisant, paradoxalement, que ne l'était le monde de la guerre froide où on avait ces deux grandes puissances qui s'affrontaient. Aujourd'hui, le jeu est plus complexe et on a un troisième acteur, hein, qui est la Chine, qui est en termes de puissance évidemment bien plus importante, incomparablement plus puissante que la Russie, très clairement. On dit traditionnellement que les relations entre les dirigeants russes et chinois sont plutôt bons, entre les populations elles le sont moins, et on dit aussi que en quelque sorte les relations jusqu'à présent étaient chaudes sur les questions politiques et froides sur les questions économiques. Mmh. Or, à l'heure actuelle, on assiste plutôt à une relance de ces relations sur le volet économique, et tout simplement parce que la Russie en a besoin. Avec la politique des sanctions, elle se cherche des partenaires, on revient à l'économie, des partenaires de substitution, et la Chine, de ce point de vue-là, apparaît comme un partenaire valable, qui a de l'argent, qui veut investir, et qui est très intéressé par l'Extrême-Orient, sans aucun doute, russe, et par la Sibérie. Simplement, il ne faut pas se tromper, les Russes insistent beaucoup sur le fait qu'ils ne sont pas une voie de passage, ils ne veulent pas être une voie de passage. Ils veulent être peut-être peut-être à leur façon aussi un empire du milieu entre l'Asie et l'Europe. Et de ce point de vue-là, la relation avec la Chine est très importante. Mais c'est une relation faite à la fois d'intérêt bien compris, mais en même temps de méfiance, même s'il y a des projets comme le terminal d'Arctique, Yamal LNG d'ailleurs, dans laquelle la Chine a investi massivement, qui avait été au départ lancé avec les Français. Donc, il y a des intérêts convergents en termes économiques, mais une méfiance géopolitique qui, à mon avis, perdurera.
Alors, on voit tout de même la Russie et la Chine, Isabelle Facon, voter régulièrement ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. En tout cas, l'économie chinoise et l'économie russe sont incomparables. Elles sont à des niveaux très différents. C'est difficile, entre la Chine et la Russie, de parler sur un pied d'égalité, en tout cas sur le plan économique.
Sur le plan économique, c'est certain. Et la Russie essaie de contrebalancer ça à travers les ventes d'armement, les échanges au niveau des technologies nucléaires, etc. Mais c'est vrai que c'est probablement un souci pour les Russes, ce déséquilibre de puissance au niveau économique, financier. On voit bien que ça a un impact dans une des parties de ce que les Russes voient comme leur précaré, c'est-à-dire l'Asie centrale, où finalement, l'influence économique russe a été, à partir du milieu des années 2000, largement déclassée par l'influence économique et financière, surtout chinoise. Et ça se voit au niveau de cette affaire de route économique de la soie, où finalement on sent bien que la Russie, à travers cette connexion annoncée en 2015 entre d'un côté cette route de la soie chinoise et l'Union économique eurasiatique, qui est ce projet d'intégration entre la Russie et certaines républiques ex-soviétiques, dont des républiques d'Asie centrale, on voit bien que c'est la Russie qui essaye finalement de profiter en effet d'affichage de la dynamique de la route de la soie chinoise, mais qu'en fait elle court plutôt derrière tout ça. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'elle essaye de compenser notamment par une relation dans le domaine militaire qui est plus forte. Et ça, c'est aussi le produit du fait que ces dernières années, la Chine ressent une pression américaine beaucoup plus forte sur elle. Et ça a l'amené évidemment à aller dans le sens d'un rapprochement avec la Russie. Donc on a vu des exercices navals depuis 2012. Le choix des lieux n'est pas anodin, donc parfois c'est en mer Baltique, parfois c'est en mer de Chine du Sud ou en mer de Chine orientale, mer du Japon. Donc il y a souvent un message politique associé à ces manœuvres. Et puis en 2018 et 2019, des troupes chinoises qui participent à des grands exercices stratégiques sur le territoire de la Russie. Et c'est particulièrement marquant l'exercice S-2018, puisque les exercices stratégiques Est, c'est en fait des exercices qui montrent quelle est la perception de la menace par la Russie sur le flanc oriental. Donc si vous invitez des troupes chinoises, ça prouve que vous estimez avoir une relation de bon voisinage avec la Chine. Et en 2019 également, vous avez des troupes chinoises qui participent à un exercice en territoire russe. Et puis l'année dernière également, Vladimir Poutine qui annonce que la Russie va aider la Chine à constituer un système d'alerte avancée contre les attaques de missiles. Et je pense qu'en faisant tout ça, la Russie poursuit deux grands objectifs. Le premier, c'est évidemment tout ce qui a été mentionné, c'est-à-dire l'idée qu'il y a, sinon une alliance entre la Chine et la Russie, du moins une relation politique et stratégique très forte face à la pression américaine. Mais le deuxième objectif, c'est d'égaliser finalement le rapport de force avec la Chine en montrant qu'il y a des domaines où la Russie a une avance. C'est notamment en termes d'avance en expérience de combat. Ça, je crois que les exercices militaires, c'est vraiment ça que les Russes mettent en avant. Et puis, ils montrent que sur l'alerte avancée, sur le nucléaire, sur un certain nombre de technologies, et bien finalement, ils conservent une avance sur la Chine. Alors évidemment, on ne le dit pas, mais je pense que ça sert aussi à ça.
Sabine Janssen.
Juste ajouter que pour ne pas rester en tête-à-tête avec la Chine, il y a aussi une offensive de la Russie en direction de l'Inde. Elle est très attachée à justement renforcer ses liens avec l'Inde, d'autant que la pénétration chinoise en Asie centrale est aussi confrontée à certaines réticences, notamment de la part des populations musulmanes, compte tenu de la façon dont les Chinois traitent les Ouïghours. Donc on voit que c'est un jeu à plusieurs parce que précisément la Russie ne veut pas rester en tête-à-tête avec la Chine, même si c'est une amie de toujours.
Sabine
a parfaitement raison de souligner ça et j'ajouterais aussi le Japon ou le pays de l'océan. Donc la Russie en effet essaie de diversifier aussi ses relations asiatiques. Un autre point qui me semble important, la relation la Russie-Chine a sa dynamique propre. On a souvent tendance à rattacher cela à la confrontation entre la Russie et l'Occident et la Russie tournerait depuis 2014 vers la Chine. En vérité, ce tournant, il est bien antérieur. Dans un article en 2012, Poutine disait il faut attraper le vent chinois dans les voiles économiques russes, etc. Et le règlement des différends à la frontière, c'est encore bien intérieur. Le partenariat stratégique a été proclamé avant. Et aujourd'hui, la Chine, c'est 17% du commerce extérieur russe. C'est le premier pays partenaire commercial, même si en matière d'investissement, les Russes ont quand même quelques déceptions. La Chine n'investit pas suffisamment, selon eux.
Alors, quelques mots sur les questions de politique intérieure. Je le disais en introduction, la réforme de la Constitution qui a été présentée le 15 janvier dernier. Le 2 mars, un certain nombre d'amendements sont apparus. L'un des plus frappants, finalement, c'est l'apparition de la mention de Dieu dans ce texte constitutionnel intouché depuis sa rédaction en 1993. Le texte doit être voté le 10 mars avec un vote populaire au contour encore flou, organisé probablement le 22 avril. Dans son article 14, la Constitution de 93 précise que la Fédération de Russie est un État laïque. Alors, et Dieu apparaît dans la nouvelle Constitution. Est-ce que c'est antinomique ? Le texte prévoit également d'inscrire que le mariage est une union entre un homme et une femme. Et s'agissant d'identité, le texte précise que le peuple russe est le peuple constitutif de l'État russe. Tatiana Kestouevajan, quelle lecture fait de ce projet de réforme de la Constitution russe?
La première chose qu'il faut souligner, c'est que au mois de janvier, Vladimir Poutine, quand il a exposé son projet de réforme constitutionnelle, ces réformes étaient assez limitées, une sorte de remaniement, peut-être la recherche d'un meilleur équilibre entre les différentes institutions. Dans les amendements qu'il a proposés, il y en a deux qui attirent l'attention. La première, c'est la disparition du mot « terme consécutif ». Donc la Constitution russe limitée à deux mandats consécutifs, les présidences possibles. Donc consécutif disparaît. Pour certains, d'ailleurs, ça remet les compteurs à zéro et pourrait permettre à Vladimir Poutine de se représenter en 2024 une fois de plus. Et le deuxième amendement qui attire l'attention, ça concerne le Conseil de l'État. En fait, il n'était pas inscrit dans la Constitution. Mmh. C'est un organe dans lequel étaient regroupés les gouverneurs des régions qui avaient des fonction de recommandation. Et donc, cet organe-là, le Conseil de l'État, acquiert une existence constitutionnelle désormais. Donc, évidemment, l'un des scénarios qui se dessine, c'est que Vladimir Poutine en prendrait la tête. Le souci, c'est que les fonctions du président de ce Conseil et les fonctions du président de la Russie sont décrites exactement avec les mêmes termes. Aujourd'hui, c'est la même personne qui préside les deux. Mais si après 2024, c'est deux personnes différentes, comment ça risque de se passer? Donc ça, c'est la première série d'amendements qui ont été proposé. Et ensuite, la commission qui a été mise en place a fait preuve d'une ébullition d'activisme, etc. Et c'est là qu'on a vu apparaître les amendements sur Dieu, sur le mariage entre un homme et une femme, ou encore les enfants, le patrimoine de la Russie, etc. Et j'ai aujourd'hui vraiment l'impression que c'est comme une sorte d'un rideau de fumée, un peu fourre-tout. Ces amendements se retrouvent dans les articles les plus incongrus dans la Constitution, parce qu'il a été décidé de ne pas toucher à la première et à la deuxième partie. Donc, on ne voit pas trop à quoi tout cela rime, parce que là, pour l'instant, la commission va examiner quels sont les amendements qui seront vraiment retenus avant le vote du 22 avril, le vote qui a aussi un statut très incertain, parce qu'il n'y a pas d'équivalence, ce n'est pas un référendum, c'est une sorte de vote populaire, votation pan-russe, à un statut constitutionnel très incertain aussi.
Sabine Janssen, très rapidement et en guise de conclusion.
Alors, simplement pour dire que je crois que là, ce qui se joue, c'est quand même la destinée aussi de Poutine. Il a un peu essayé toutes les positions du Kamasutra politique avec Medvedev depuis 1993. Donc là, on revient à l'idée d'une réinitialisation qui peut-être lui permettrait soit de se représenter, soit de se mettre à la tête de ce Conseil d'État, un peu comme l'a fait Nursultan Nazarbayev, le président du Kazakhstan, qui est toujours là. Donc, sans être forcément président de la Russie, continuer à tenir le pouvoir et, d'une certaine façon, aussi à tenir la Russie. C'est cette question-là qui se pose pour la suite.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci Sabine Janssen. Je rappelle que vous êtes professeure au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, et co-rédactrice en chef de la revue Questions Internationales, dont le dernier numéro a pour titre « Russie, la puissance solitaire ». Isabelle Facon, maître de recherche et directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de la politique étrangère et de sécurité russe. Et Tatiana Kestouevajan, directrice du Centre Russie-NEI de l'Institut français des relations internationales. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Kaledek et Nathalie Laporte. À samedi.
Priorité santé. Carole.